Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
En chemin cette semaine avec Sainte Edith Stein. Bonjour Éric de Russe.
Bonjour.
Vous avez écrit sur Edith,
oui,
plusieurs ouvrages,
oui,
dont ce dernier, il y a quelques mois, par aux éditions du CERF. C'est une thèse. Hein.
Oui, c'est une thèse
c'est
de doctorat.
C'est un travail monstrueux.
Un
de
très
l'énergie,
long, de très longue haleine, oui.
Des nuits blanches.
D'abnégation, je dirais. C'est le fruit d'un don de soi aussi.
Qui vous dépasse,
ah oui,
encore comme, aujourd'hui.
Oui, qui me dépasse et dont je veux croire que tout ce qui est vécu dans l'amour et le don est fécond pour d'autres. Hein, voilà.
Ce livre s'intitule Anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein. Vous avez écrit ceci dans un article qui est paru en juillet et en août.
Oui.
On donnera les références à la fin de cette série. Vous écrivez « Écouter, c'est libérer en soi un espace de silence pour accueillir une parole qui fait entendre plus grand que soi.
Mmh. »
Nous ne sommes plus forcément, Éric de Russe, dans l'écoute et cette juste écoute qui demande de faire taire, mais vraiment tous ces bruits.
Oui.
On pourrait être aussi dans ce semblant d'écoute, mais qui n'est pas véritablement une écoute.
C'est ça. Je crois que le climat de l'écoute, c'est le silence.
Mais quel silence ?
Et alors justement, le silence qui n'est pas le mutisme. C'est-à-dire que le véritable silence n'est pas un but en soi. C'est le climat dans lequel on entend une parole qui est vie. Donc le vrai silence vous fait entendre, vous ouvre à une autre parole que la vôtre et que celles qui sont autour de vous. Une parole beaucoup plus profonde qui touche à l'essentiel. Mais il faut vouloir, désirer cette condition de l'écoute. Et le silence aussi fait peur parce que ça suppose, c'est un exil. Vous savez, à Abraham, il est demandé de partir. Eh bien, ce que j'expérimente, c'est que quand on veut vivre dans un texte, quand on veut respirer la pulsation d'un texte, il faut s'exiler.
Et respecter ce texte.
Et respecter, bien sûr, ce texte, s'y ajuster et pas l'ajuster à soi. Il faut s'exiler du connu. On entre dans l'inconnu, on entre dans une terre inconnue, puisqu'on va découvrir ce qu'on ne peut pas imaginer au départ. Et pour cela, il faut partir, il faut quitter sa maison, c'est-à-dire ce que l'on connaît, ses habitudes. Il faut vouloir libérer dans sa vie un espace pour autre chose que soi-même. Et donc prendre aussi sur... son temps, ses habitudes, c'est tout ce dont je parlais
ce
précédemment.
Ce que vous nommez fait penser aussi à ce chemin aussi de conversion.
Mais c'est exactement...
L'homme en quête de vérité, l'homme,
oui,
en quête d'un Dieu.
Oui, exactement.
Et ce déplacement se fera ou ne se fera pas selon aussi la disposition et le bon vouloir de la personne.
Alors, je suis convaincu en effet qu'il y a une part de liberté, mais cette liberté, je dirais qu'elle est elle-même la réponse à un appel. Le texte appelle, pour moi le texte appelle. Mais qu'est-ce qui appelle ?
Il est vie.
Parce qu'il est vie, exactement. Le texte appelle parce qu'il y a en lui une parole qui est capable de rejoindre votre intériorité. Une parole qui touche en vous la vie et donc qui vous réveille. Et pour qu'une parole touche à ce point en vous la vie, c'est bien parce que cette parole dépasse elle-même Edith Stein. Donc ça, je l'avais perçu, ça m'a appelé. Et donc, si je voulais répondre, en effet, ma liberté, ben je devais me donner aussi les moyens, dans la vie qui était la mienne, avec les limites qui sont les miennes, mais je devais malgré tout libérer, comme vous l'avez rappelé, un espace. Et donc, passer moins de temps à ce moment-là dans les relations sociales, dans beaucoup de choses. Hein. Il fallait ce silence, il fallait préserver mon oreille intérieure d'autres bruits. Vous savez, quand vous voulez vous ajuster à une musique, hein, parce que ce texte, c'est un répertoire pour moi sacré. Pour s'ajuster à ce niveau de musique, votre oreille doit apprendre à se hisser à un niveau, et donc vous ne pouvez pas après la polluer et l'ouvrir à n'importe quel bruit, à n'importe quelle voix, à n'importe quel bavardage. Ça fait partie du jeu. Et c'est exigeant, ce n'est pas de l'élitisme, c'est une exigence d'amour. C'est-à-dire, si vous voulez vous donner à ce qui a du prix, eh bien, il faut en payer le prix. Et en payer le prix, c'était réservé pour moi, cette écoute, à cette parole. Et je ne pouvais pas polluer mon espace intérieur d'autre chose, parce que je devais immédiatement le texte repris pouvoir retrouver
cette qualité.
Donc on
parle travailler au mieux et respecter au mieux le texte et dans cette attitude de serviteur pour préserver aussi cette quête aussi et cette vérité.
Oui.
Et dans l'œuvre d'Edith.
Et dans l'œuvre d'Edith, et là on touche à quelque chose qui n'est peut-être pas très à la mode, disons-le, c'est que, en tout cas, Edith Schein a une unité de sa vie et de son œuvre. Donc on ne peut pas se mettre au service d'une telle œuvre sans s'y ajuster. On ne peut pas tout tenir. Et donc si on veut vraiment écouter une telle œuvre, on ne peut pas en même temps se disperser, se diluer, se déconcentrer dans des choses factices.
Vous parlez de la concentration aussi.
Pour moi,
prendre soin.
Mais oui, la concentration, c'est-à-dire essayer de faire chemin vers un centre intérieur qui est un espace de silence en soi qui est habité, et à partir de ce centre, ouvrir l'oreille intérieure. Et donc, il fallait que je vive dans un état de concentration le plus continu possible. Donc, il y a beaucoup de choses que je devais laisser de côté.
Vous écrivez, l'une des choses les plus précieuses que j'ai appris à l'école d'Edith Schein, c'est que la qualité d'une action, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement spirituel, dépend de la pureté de la concentration intérieure.
Oui.
Cette exigence de concentration fut et demeure l'axe de fond de mon travail, etc., etc.
Oui, mais ça, c'est une école de concentration.
Donc, c'est une ascèse, un déplacement, là aussi.
C'est une ascèse, c'est un déplacement. D'ailleurs, étymologiquement, l'ascèse, l'exercice, veut dire que c'est une discipline créatrice. L'ascèse, en fait, c'est d'abord une discipline créatrice. Mais pour créer, pour enfanter, et Edith Schein dit, c'est douloureux, il faut se ramasser autour d'un centre, et il faut abandonner, consentir à se défaire de beaucoup d'autres choses. Il faut payer de soi-même, sinon c'est un semblant.
Il faut à la fois être ce créateur,
sans
prendre la place du créateur.
Tout à fait. Voilà pourquoi, même si l'humain peut être créateur, c'est parce que d'abord il a été serviteur, et parce qu'il est serviteur. Et créer, c'est collaborer à la seule création, qui est l'amour. Maxime Kolbe disait « Seul l'amour est force de création ». Ça, je l'ai expérimenté avec Edith Schein. Ce don à ce texte, à l'œuvre, c'était de l'amour. Et cet amour-là porte un fruit, mais que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne prévoit pas, que l'on n'organise pas, dont on n'est pas propriétaire. Mais la concentration, se ramasser autour d'un centre, faire taire en soi et s'exiler de tant d'autres voix, pour se donner à une seule chose, à l'écoute de cette œuvre.
Vous êtes parti au désert ?
Exactement, c'est une forme de désert.
Mais quel désert ? C'est comme quelle écoute et quel silence ?
Et quel désert ? C'est à la fois...
Quelle présence au désert,
tout
je vais
à fait.
Donner.
C'est exactement
là aussi,
ça.
J'ai cette liberté,
tout à fait.
Ou non, d'entrer dans ce désert, mais...
Oui. Oui, et quand vous dites
à la juste place,
vous avez parfaitement raison de dire quel désert, parce que ce désert n'est pas la sécheresse qui use, c'est l'exigence qui vous dénude, mais qui vous permet de recevoir une autre eau, une autre plénitude, une autre parole. Ce n'est pas l'effort qui use, c'est l'effort qui porte un fruit de vie. Et donc ce désert, c'est vrai, c'est quand même la solitude aussi, parce que concrètement, ce travail exige de vivre seul avec les textes, dans la présence des textes, c'est le silence. Mais tout cela est rempli, comme vous l'avez dit, d'une présence. Et s'il n'y avait pas quelque chose de plus grand que vous, qui vous attire et qui donne une parole vraie et solide, ça ne serait pas possible.
Ça ne serait pas dans possible. Ce désert, dans ce silence, ce désert est habité de cette grande présence. C'est la vie. On est au cœur de la vie.
On est au cœur de la vie, et ce qui vous permet de le vérifier, c'est que ça enrichit, ça irrigue votre propre existence. C'est-à-dire, en vivant dans le compagnonnage avec Edith Schein, eh bien, ça travaille votre regard sur l'existence, sur les gestes quotidiens, sur le rapport aux autres. Les choses gagnent en intensité. Cette lumière de l'œuvre va imprégner votre vie aussi au quotidien. Donc ce n'est pas séparé, ce n'est pas quelque chose qui serait en haut d'une montagne et puis le reste qui serait dans l'obscurité. Ça va imprégner, il y a une imprégnation intérieure des couches de l'existence.
Pour nos auditeurs, oui. Peut-être lecteurs ou qui deviendront lecteurs, oui. quelle que soit l'œuvre, c'est une approche aussi qui peut conduire et invite le lecteur à se laisser déplacer peut-être au désert, dans ce désert qui est rempli de vie, mais qui invite au discernement. Et au risque de cette écoute, de ce silence.
Vous avez raison, il y a un risque, mais nous n'avons qu'une vie pour risquer. Pascal dit « il faut tout donner ». Lire, c'est prendre le risque de ce déplacement. C'est-à-dire, si vous ne vous ouvrez pas une parole dont vous n'êtes pas la source, vous refermez un livre. Lire, c'est s'exposer à une parole dont je ne suis pas la source. Donc l'acte de lire est un décentrement en soi. Il faut faire taire, il faut se mettre à l'écoute d'une autre parole dont je ne suis pas la source. Bien sûr, après, cette parole va vous travailler, vous êtes capable de discerner, de prendre du recul, d'y adhérer ou pas, etc. Mais dans un premier temps, l'attitude première, c'est une attitude de décentrement et d'ouverture à une parole dont je ne suis pas la source. Ça, c'est quand même une expérience humaine merveilleuse.
Tout auditeur peut faire cette expérience en tant que lecteur.
Exactement.
C'est un beau voyage, une aventure.
Ah mais vraiment une aventure.
Une aventure pour se risquer, rencontrer peut-être ce grand amour aussi. Éric de Ruge, je vous propose de garder donc cette route, un chemin cette semaine avec Edith Stein, avec l'apparition de ce livre paru aux éditions du CERF il y a quelques mois, Anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein. À demain à la même heure.
Merci.